Welcome to the 5 to 6 p.m. Maureen Wanzi-Willai and Larissa Engono are top stories.
Au sommaire du 17-18, violence basée sur le genre, l'indignation à l'unisson. Déjà une soixantaine de féminicides recensés depuis le début de l'année au Cameroun. Autorités et sociétés civiles s'engagent à un surcroît de sensibilisation pendant 16 jours d'activisme. À suivre dans ce journal, les innovations de la campagne. Marie-Thérèse Abenandoa, ministre de la promotion de la femme, est l'invitée de la rédaction.
Cameroon today joins the globe in Operation 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. There is reportedly an increase in the number of femicide cases in the country. Focus of the day examines the contribution of non-governmental organizations in the elimination of violence against women.
La semaine du foncier en quête d'un terrain d'entente. Il faut concilier gouvernance et objectifs de développement durable. Les parties prenantes des questions foncières et domaniales y réfléchissent autour de la tutelle. Enjeux et perspectives dans le 17-18.
Cameroon and Equatorial Guinea discuss the clear demarcation of their common boundaries in the Equatorial Guinean city of La Paz. Officials are analyzing border misunderstandings and committing themselves to peacefully tackle the concerns. The Cameroonian delegation is headed by Territorial Administration Minister Paula Tanganji.
Et puis sport, 26e CAN féminine de handball, début des hostilités dans 48 heures à Kinshasa. L'équipe nationale est en terre congolaise, vice-champion d'Afrique en titre. L'entraîneur Serge Magala et son groupe rêvent de la première marche du podium. Ambition réaffirmée, assumée en page des sports vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Nous accueillons en ouverture du 17-18 le directeur des rédactions radio de la CIRTV, Valérie Dikosumaru. Bon après-midi, Valérie.
Bon après-midi, Larissa.
Également avec nous, le directeur adjoint, George Colon. Good afternoon, George.
Good afternoon, Larissa.
Valérie, vous avez ce lundi des décrets du président de la République.
Décret numéro 2024/603 du 25 novembre 2024 portant nomination du directeur général du centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Le président de la République décrète, article 1er, Monsieur Ndjentche Vincent de Paul est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général du centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/603 of the 25th of November 2024 to appoint the Director General of the Yaoundé University Teaching Hospital. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. Mr. Ndjentche Vincent de Paul is with effect from the date of signature of this decree appointed Director General of the Yaoundé University Teaching Hospital. Article 2. The appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 25th of November 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024/604 du 25 novembre 2024 portant nomination du directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Le président de la République décrète, article 1er, Monsieur Che Kingsley So est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/604 of the 25th of November 2024 to appoint the Director General of the Yaoundé Gynecology Obstetrics and Pediatrics Hospital. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. Mr. Chair Kingsley So is with effect from the date of signature of this decree appointed Director General of the Yaoundé Gynecology Obstetrics and Pediatrics Hospital. Article 2. The appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 25th of November, 2024, signed Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024/605 du 25 novembre 2024 portant nomination du directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. Le président de la République décrète, article 1er, Monsieur Essomba Noël Emmanuel est à compter de la date de signature du présent décret nommé directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/605 of the 25th of November 2024 to appoint the Director General of the Yaoundé General Hospital. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. Mr. Essomba Noël Emmanuel is with effect from the date of signature of this decree appointed Director General of the Yaoundé General Hospital. Article 2. The appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 25th of November 2024, signed Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024/606 du 25 novembre 2024 portant nomination de responsable au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le président de la République décrète, article 1er, sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Inspecteur général des services, Monsieur Akédé Metougué Eric, administrateur civil principal, précédemment chef de la division des affaires juridiques, en remplacement de Monsieur Wadjiri Simon, inspecteur général des programmes et méthodes d'enseignement et de formation, Monsieur Awa Pascal Koum, maître de conférence, précédemment conseiller technique numéro 2, en remplacement de Monsieur Sanjok Marc Armand Aimé. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/606 of the 25th of November 2024 to appoint officials in the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned persons are with effect from the date of signature of this decree appointed to the following positions in the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Inspector General of Services, Mr. Akédé Metougué Eric, Senior Administrative Officer, previously head of the Legal Affairs Division in replacement of Mr. Wadjiri Simon. Inspector General of Curricula, Teaching Methods and Training, Mr. Awa Pascal Koum, Associate Professor, previously Technical Advisor Number 2, in replacement of Mr. Sanjok Marc Armand Aimé. Article 2. The appointees shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 25th of November, 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024-607 du 25 novembre 2024 portant nomination de responsables dans certaines universités d'État. Le président de la République décrète article 1er sont à compter de la date de signature du présent décret nommés au poste ci-après dans certaines universités d'État. Université de Berthois, vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises. Monsieur Ossa Eboto Charles Adolphe, maître de conférence, précédemment vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'université de Marois, en remplacement de Monsieur Nkelzok Komtindi Valère, appelé à d'autres fonctions. Université de Marois. Vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises, M. Nkelzok Komtindi Valère, professeur, précédemment vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'Université de Berthois, en remplacement de M. Ossa Eboto Charles Adolphe, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/607 of the 25th of November 2024 to appoint officials in some state universities. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned persons are with effect from the date of signature of this decree appointed to the following positions in some state universities. University of Berthois, Vice-Rector in charge of research, cooperation and relations with the business world, Mr. Ossa Eboto Charles Adolphe, Senior Lecturer, previously Vice-Rector in charge of research, cooperation and relations with the business world of the University of Marwa, in replacement of Mr. Nkelzok Komtindi Valère, who has been transferred to other duties. University of Marwa, Vice-Rector in charge of research, cooperation and relations with the business world, Mr. Nkelzok Komtindi Valère, Professor, previously Vice-Rector in charge of research, cooperation and relations with the business world of the University of Berthois, in replacement of Mr. Ossa Eboto Charles Adolphe, who has been transferred to other duties. Article 2. The appointees shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 25th of November 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024-608 du 25 novembre 2024 portant nomination de responsables dans certaines universités d'État. Le président de la République décrète article 1er sont à compter de la date de signature du présent décret nommé au poste ci-après dans certaines universités d'État. University of Boya, Department of Development, Physical Plant and Infrastructure, Director, Mr. Bilon Salomon, Associate Professor, previously Director of Administrative and Financial Affairs of the University of Yaoundé 2, in replacement of Mr. Tamese Joseph Lebel, who has been transferred to other duties. Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Dean Mr. Tamese Joseph Lebel, Professor, previously Director of Development, Physical Plant and Infrastructure in the same university, in replacement of Mr. Mvondo Awono Jean-Pierre, who has been placed on retirement. Université de Debolova, Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement. Directeur, M. Philippe Cosma, professeur, précédemment directeur des infrastructures, de la planification et du développement à l'Université de Garoua, en remplacement de M. Ombolo Auguste, appelé à d'autres fonctions. Université de Garoua, direction des infrastructures, de la planification et du développement, directeur, M. Ombolo Auguste, maître de conférence, précédemment directeur de l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement à l'Université d'Ebolova, en remplacement de M. Philippe Kosma, appelé à d'autres fonctions. Université de Ngaoundéré, conseiller technique auprès du recteur, M. Iya Moussa, maître de conférence, précédemment directeur du Centre des œuvres universitaires dans la même université, en remplacement de M. Beda Tibi, direction du Centre des œuvres universitaires, directeur, Madame Zangé Adjia Henriette, maître de conférence, précédemment directeur de l'École des sciences et de médecine vétérinaire de la même université, en remplacement de M. Iya Moussa, appelé à d'autres fonctions. École des sciences et de médecine vétérinaire, directeur, M. Yaouba Aoudou, maître de conférence, précédemment vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchan, en remplacement de Mme Zangé Adjia Henriette, appelée à d'autres fonctions. Université de Yaoundé 2, direction des affaires administratives et financières, directeur, Mme Niadjo Lidwina Dopé, épouse Nyangbet Gapsa, chargé de cours, précédemment directeur par intérim de l'Institut panafricain de gouvernance de sciences sociales et humaines, en remplacement de M. Bilon Salomon, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2024/608 of the 25th of November 2024 to appoint officials in some state universities. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned persons are with effect from the date of signature of this decree appointed to the following positions in some state universities. University of Boya, Department of Development, Physical Plant and Infrastructure. Director, Mr. Bilon Salomon, Associate Professor, previously Director of Administrative and Financial Affairs of the University of Yaoundé 2, in replacement of Mr. Tamase Joseph Lebel, who has been transferred to other duties. Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Dean, Mr. Tamase Joseph Lebel, Professor, previously Director of Development, Physical Plant and Infrastructure in the same university, in replacement of Mr. Vondo Awono Jean-Pierre, who has been placed on retirement. University of Ebolowa, Higher Institute of Agriculture, Forestry, Water and Environment, Director, Mr. Philippe Kosma, Professor, previously Director of Infrastructure, Planning and Development in the University of Garoua, in replacement of Mr. Ombolo Auguste, who has been transferred to other duties. University of Garoua, Department of Infrastructure, Planning and Development, Director, Mr. Ombolo Auguste, Senior Lecturer, previously Director of the Higher Institute of Agriculture, Forestry, Water and Environment of the University of Ebolowa, in replacement of Mr. Philippe Kosma, who has been transferred to other duties. University of Ngaoundéré, Technical Advisor to the Rector, Mr. Iya Moussa, Senior Lecturer, previously Director of the Student Welfare Center in the same university, in replacement of Mr. Beda Tibi. Students Welfare Center, Director, Ms. Zangé Adjia Henriette, Senior Lecturer, previously Director of the School of Veterinary Science and Medicine in the same university, in replacement of Mr. Iya Moussa, who has been transferred to other duties. School of Veterinary Science and Medicine, Director, Mr. Yaouba Aoudou, Senior Lecturer, previously Vice Dean in charge of research and cooperation in the Faculty of Agronomy and Agricultural Sciences of the University of Tchang, in replacement of Ms. Zangé Adjia Henriette, who has been transferred to other duties. University of Yaoundé 2, Department of Administrative and Financial Affairs, Director, Mrs. Nyongbet Gapsane Nyajiro Ledwena Dope, Lecturer, previously Acting Director of the Pan-African Institute of Governance, Humanities and Social Sciences, in replacement of Mr. Bilon Salomon, who has been transferred to other duties. Article 2, the appointees shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3, this decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 25th of November, 2024. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2024-609 du 25 novembre 2024, habilitant le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à signer avec la Banque africaine de développement, la BAD, un accord de prêt d'un montant de 63,09 millions d'euros, soit environ 41,5 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'amélioration des compétences en soutien à l'industrialisation PEAC. Le président de la République décrète, article 1er, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'aménagement du territoire est habilité, avec faculté de délégation, à signer avec la Banque africaine de développement un accord de prêt d'un montant de 63,09 millions d'euros, soit environ 41,5 milliards de francs CFA, pour le financement du projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'amélioration des compétences en soutien à l'industrialisation. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya. Décret numéro 2024-610 du 25 novembre 2024, habilitant le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à signer avec la Banque africaine d'export-import, Afreximbank, un contrat de crédit d'un montant de 38 100 000 d'euros, soit environ 24,86 milliards de francs CFA, pour le financement partiel du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque de 200 localités. Le président de la République décrète, article 1er, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire est habilité, avec faculté de délégation, à signer avec la Banque africaine d'export-import un contrat de crédit d'un montant de 38 100 000 d'euros, soit environ 24,86 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque de 200 localités. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 25 novembre 2024, signé le président de la République, Paul Biya.
Thank you very much, Valérie Dikosumaru and George Kalan.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour, le sport, l'actu international, le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
17h25 minutes, vous êtes sur le poste national. Nous le disions en titre, il y a comme une augmentation spectaculaire de cas de violence basée sur le genre. Près de 50 000 femmes et filles tuées en 2022 à travers les 5 continents illustrent cet état de fait. Au Cameroun, pour la seule année 2024 en cours, ce sont 66 femmes qui ont perdu la vie. C'en est trop et il faut briser ce cycle toujours aussi préoccupant via plusieurs initiatives, dont les 16 jours d'activisme lancés ce 25 novembre à Yaoundé. Tatiana Ibodo, reportage.
C'est l'histoire d'une Congolaise qui est invitée au Cameroun par son compagnon camerounais et qui finalement disparaît.
C'est dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Yaoundé que cet événement s'est tenu sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Une thématique forte qui place la reconstruction des victimes au centre des débats et des actions. La cérémonie a rassemblé un large public, membres du gouvernement, associations de la société civile, survivantes et citoyens engagés. Le coup d'envoi a été donné par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Marie-Thérèse Abena Ondoa a livré un discours poignant, réaffirmant la détermination du gouvernement à riposter face à ce fléau. Plusieurs moments marquants ont rythmé cet événement, parmi lesquels la présentation des cas de féminicide en 2024 au Cameroun. Le gouvernement a dévoilé sa stratégie pour accompagner les victimes. Symbole d'espoir et d'engagement, une grande main inscrite Stop VBG a été installée sur place. Chaque participant a pu y inscrire des propositions ou des messages pour éradiquer les violences basées sur le genre. Les associations présentes ont également pris la parole. L'ONG Kamkraan Children First a mis en avant un concept novateur, la masculinité positive qui implique les hommes et les garçons dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. À la fin de la cérémonie, le message clé de cette édition a été martelé par tous les participants. Ripostons pour reconstruire ensemble, disons stop aux violences faites aux femmes.
C'est donc un véritable sursaut que cette 18e édition de la campagne mondiale de 16 jours d'activisme qu'on vit les victimes, avec évidemment l'encadrement des pouvoirs publics qui travaillent à la promotion et à l'épanouissement des femmes. Écoutons justement à ce sujet la ministre en charge de ces questions, professeure Marie-Thérèse Abena Ondoa.
Alors, le message, c'est de mettre un terme à ces violences et de venir en aide aux victimes, aux survivantes, pour se refaire une vie normale. Que chacun de nous sache qu'il est concerné pour que ces violences s'arrêtent.
Des propos recueillis par Tatiana et Bodo. Et à cette cérémonie de lancement de la 18e session de sensibilisation, Marie-Thérèse Abena Ondoa a également été approchée par Sardi Lawan pour évaluer et peser les efforts ou autres progrès réalisés en faveur d'une société plus sûre pour les femmes, mais aussi sur la contribution attendue des communautés dans une logique d'amélioration de l'existant. Entretien à suivre en page magazine du 17-18, rubrique invité de la rédaction. La cote d'alerte vient également de ces 214 cas de dénonciation et 52 féminicides enregistrés dans la région du littoral. Le fait macabre le plus récent concerne une mère de famille froidement assassinée au quartier Dakar et une enquête pour l'heure au point mort. Mélanie Bilor de CERTV Littoral nous en parle.
Qu'elle soit physique, sexuelle ou même psychologique, les violences basées sur le genre restent fréquentes. Elles affectent davantage les femmes. Winnie Changamanga, chef du service de la promotion sociale de la femme et du genre, auprès de la délégation régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral.
Jusqu'à présent, on est déjà à 214 cas de violences dénoncées. Et on suppose que ça peut être plus que ça parce qu'il y a des femmes qui ne dénoncent pas. Et seulement dans la région du littoral, on est déjà à 52 féminicides. Donc c'est assez alarmant.
Diverses actions sont menées pour intensifier les efforts visant à promouvoir les normes sur le genre et à éduquer les populations. Gisèle Caroline Eco, déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral.
Nous avons préconisé d'organiser un train de sensibilisation dans les établissements scolaires de la ville de Douala. Ça commence dans le bas âge, il faut déjà préparer les garçons. Et même les filles, hein, à devenir des personnes non violentes dans l'avenir.
Les victimes sont donc encouragées à briser le silence en dénonçant les bourreaux. Douala, Mélanie Bilor, CRTV.
On les veut également plus informées et plus influentes. Nous parlons cette fois des personnes handicapées. Leur quotidien difficile fait de contraintes limitantes et de stigmates est chaque année rappelé à l'approche du 3 décembre, journée dédiée à leur cause. L'un des obstacles à leur déploiement en administration demeure l'absence de rampe d'accès pour une mobilité aisée et aux normes. De bons élèves existent tout de même en la matière. Et Pauline Irène Nguéné, ministre des Affaires sociales, est allée voir cela de près ce lundi, avec à sa suite notre reporter Christine Victoria Penda.
La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a félicité certaines structures publiques de Yaoundé pour leurs efforts en matière d'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. Cette reconnaissance intervient à la suite de son inspection ce lundi de trois sites principaux, notamment l'Assemblée nationale, le Centre des handicapés d'Itougébé et l'Agence de régulation des télécommunications. Lors de cette tournée, la ministre a vérifié, entre autres, dans ses installations, ascenseurs, portes d'entrée, rampes et autres infrastructures afin d'évaluer leur conformité aux normes d'accessibilité. Elle s'est dit satisfaite des aménagements observés et a rappelé que l'accessibilité est un droit fondamental pour les personnes handicapées devant être respecté dans toutes les structures publiques. Elle a également souligné l'obligation pour le Cameroun de se conformer aux conventions internationales sur les droits des personnes handicapées ratifiées par le pays. Par ailleurs, elle a exhorté les architectes, ingénieurs et entrepreneurs à intégrer systématiquement l'accessibilité dans leur conception et construction future. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités en prélude à la 33e journée internationale des personnes handicapées, témoignant de l'engagement du gouvernement à promouvoir une société inclusive.
À 17h passée de 31 minutes, mettons le cap sur l'Assemblée nationale, où les membres de la Commission des finances et du budget et ceux de la Chambre des comptes de la Cour suprême évaluent l'état de mise en œuvre des recommandations dans la gestion des finances publiques. C'est dans le cadre du 30e forum d'échange entre ces deux institutions. Exposés, échanges et autres débats meublent les travaux conduits par Rosette Tayayi, la présidente de la Commission des finances et du budget de l'Auguste Chambre. Détail, Pauline Deauville, Mendoz Embassy.
La Chambre des comptes de la Cour suprême et les commissions des finances et du budget au Parlement sont les seuls organes dédiés au contrôle externe des finances publiques. Il s'agit là d'une disposition du régime financier de l'État. À travers les forats institutionnalisés entre ces organes de contrôle, il s'est avéré au fil des années que les recommandations conjointes issues de leurs travaux ont pris du volume. Cependant, les recommandations ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il faut encore qu'elles soient mises en œuvre par les destinataires. Et c'est là où le bât blesse. Yap Abdou, président de la Chambre des comptes de la Cour suprême.
Les recommandations que nous prenons ensemble avec le Parlement. Nous n'avons pas eu le sentiment qu'il y a un impact sérieux.
Et qu'est-ce qu'il faut donc faire?
Nous avons pensé passer à la vitesse supérieure. Nous allons prier le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, parfois porter haut la voix des deux chambres, la Chambre des comptes et puis la Commission des finances, du budget. Peut-être ça irait de l'avant. Nous comptons sur les médias parce que parfois les gens ne sont pas informés des recommandations qui sont formulées. La médiatisation est l'un des moyens forts pour pouvoir conscientiser des gestionnaires.
Pour les députés, membres de la Commission des finances et du budget, la mise en place des commissions d'enquête parlementaire est primordiale. Honorable Benilde Djemeni.
C'est plutôt possible que les commissions d'enquête soient mises sur le terrain pour aller vers les différentes institutions. Et c'est ce que nous attendons de la présidente de la Commission des finances. Il est question pour l'exécutif de se ressaisir et de laisser chacun faire son travail.
Au terme des travaux, l'on retient que la mise en œuvre des recommandations doit finir par s'ancrer dans le paysage administratif et au sein des entités publiques. Et pour cela, les institutions de proposition doivent elles-mêmes être de plus en plus compétentes et organisées. Les entités auditionnées de leur part, ouvertes aux réformes.
Et Maureen, nous restons à l'Assemblée nationale pour d'autres détails quant à ce 30e forum d'échange entre la Chambre et les membres de la Cour suprême.
Members of the audit bench of the Supreme Court and those of the Finance and Budget Committee of the National Assembly have decried the timid implementation of their recommendations by those in charge of managing public finances. This was during the 20th Exchange Forum today at the Yaoundé Conference Center. Discussions held under the auspices of the chairperson of the Finance and Budget Committee of the National Assembly, Honorable Mutimbo Rosette Ayayi, and the president of the audit bench of the Supreme Court, super skilled legal and judicial officer Yap Abdul. Parliamentary Affairs correspondent Doris Bateta Toekwe reports.
The audits conducted by the audit bench aim to issue recommendations in addition to imposing sanctions on individuals involved in the budgetary chain, such as authorizing officers, credit managers, accountants, and finance controllers. These recommendations aim to propose corrective measures for the weaknesses identified during audits and to highlight opportunities for improvement. Meeting in their Trinidad Exchange Forum today, members of the audit bench of the Supreme Court and those of the Finance and Budget Committee of the National Assembly assessed the impact of such recommendations on governance in Cameroon. Honorable Fonge Julius is member of the Finance and Budget Committee.
We can't say 100% that we are satisfied.
His view is shared by Justice Justine Fofunwaka of the audit bench of the Supreme Court.
We have made so many recommendations since we started, but unfortunately, very few have been implemented.
Through their institutionalized collaboration, they hope things will get better.
We believe that with the amelioration of situation, with the improvement of the working conditions, and with the adoption of laws, some of the flaws which today the audit bench is facing are taken into consideration. In the future, we will be apt to implement the recommendations made by the audit bench.
We need parliament because they are the voice of the people. If the two houses speak in one voice and our recommendations are read out and publicized with the media and even the civil society, we think that those recommendations will be implemented.
If taken into account, recommendations made thanks to parliamentary and judicial oversight could help improve good governance in public finance management in Cameroon.
And on to one of our top stories. Cameroon and Equatorial Guinea have embarked on the clear demarcation of their boundaries. At the behest of President Paul Biya, the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, is leading the delegation from Cameroon in an ad hoc commission meeting in the Equatorial Guinean city of La Paz. Cameroonians in Equatorial Guinea used the working session to express their expectations, captured in this report by our special envoy, Albert Njembande.
A huge and vociferous bunch of Cameroonians residing in the Djiblo province massed to welcome their compatriots and re-echo their expectations as expats of the two countries meet.
My name is Hector Kamdem. Cameroonians say to have difficulties with obtaining the residence permit, which means once you get a stamp on crossing the border, it's valid for 3 months. After every 3 months, you need to go back to get that stamp again in your passport. So if you do not work maybe in a big company that can process your residency for you, then you have that problem. Every 3 months, you need to be going back to the border to get that stamp.
The Cameroon Equatorial Guinea Border Ad Hoc Committee meeting is the first of its kind since the last took place 40 years ago in the town of Ambam, south of Cameroon. Since then, the two countries have seen the good, the bad, and the ugly along their common border, misunderstandings which the two delegations are hoping to put on the table and chart a way forward. Territorial Administration Minister Paula Tanganji has had a feel of the expectations of the Cameroonians here.
Dogo, Alfred, and Do, I've been here for 7 years. We are living peacefully. We think like the borders, at times for us to go out is so difficult. At times you will reach, it's locked totally. For months, you can't circulate. So it's difficult. Most of our brothers, sisters, they even find their ways going through the bushes, which is so risky.
The head of state's envoy has reassured them of the determination of Presidents Paul Biya and Teodoro Obiang-Gman Bazogo to solve the issues at stake and strengthen the historical and sociocultural and geographical bond existing between Cameroon and Equatorial Guinea. Albert Njembonde, Yannick Ayagma, on special assignment, La Paz.
from Equatorial Guinea back to Cameroon in Yaoundé, where the 2024 Land Tenure Week in Cameroon has opened in Yaoundé with a call on everyone to ensure the proper development of the land system in the country. The Minister of State Properties, Surveys and Land Tenure, Henri Eyebiayisi, was speaking a while ago while opening the week-long event at the Monfebe Hotel in Yaoundé. Gu Henry has an update of the opening ceremony from the Monfebe Hotel.
Welcome to the Monfebe Hotel in Yaoundé, playing host to the official opening ceremony of the 2024 Land Tenure Week in Cameroon. The five-day event is one of the tools for brainstorming on the serene and inclusive management of lands in Cameroon. It avails officials of the Ministry of State Property, Surveys and Land Tenure, plus other government services concerned with a unique opportunity to meet with a wide range of stakeholders from different geographical and thematic backgrounds representing the many uses, rights, and interests associated with land and its resources. Speaking in the presence of several members of government and the diplomatic corps, the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure said the forum is an opportunity to carry out an extensive discussion with traditional rulers whose ideas will effectively contribute to the document of land reforms in the country as instructed by the head of state. Highlights of the 6th Land Tenure Week in Cameroon will include workshops, presentations, and discussions on the theme Land Governance and Sustainable Development Goals in Cameroon, Stakes and Prospects. Reporting from the Monfebe Hotel in Yaoundé, this is Gu Henry.
The new Israeli ambassador to Cameroon, His Excellency Amon Kalmer, has promised to consolidate relations between the two countries. His Excellency Amon Kalmer was speaking this morning with the governor of the Center Region, Nasiri Paul Beya. Lekiate Getruta Songan, CEO of CLTV Center, tells us more.
The close to 30-minute audience permitted Ambassador Amon Kalmer to present his envisaged activities in Cameroon.
It's a very good opportunity to discuss with the governor about different kinds of challenge that we are going to have here in Yaoundé. Israel and Cameroon have a very warm relation. It's a very important meeting to discuss today, this morning, with the government about the future issues that we are going to do together.
During his tenure as Ambassador of Israel to Cameroon, His Excellency Amon Kalmer intends to consolidate the already existing rich relations between the two countries. This, he says, will be particularly cultural, economic, and financial domains. Lekiate Getruda Songazi, CRTV News. Center.
And over in the West region, the governor has stated that security moves are being put in place to contain any incursions from armed groups into the region. Our Funke Augustine was speaking at the start of a two-day security coordination meeting taking place in Banjul, affirmed that the administration and the security are working hand or they are working hard to ensure no loss of lives during end-of-year festivities. Details with Eric Langmia Wofo.
Governor Awafunke Augustine indicated that the West region has recorded incursions in border localities to the Northwest region from armed groups. He has disclosed the strategies have been earmarked to contain any security challenges during this end-of-year feast.
New posts have been created to be able to contain especially advances by the separatist fighters in our regions, and especially to put an end to the number of cases of kidnappings and requests for money. Besides that, we've registered so many deaths in the region as a result of accidents. We're working with the travel agencies in particular, sensitizing those in the motorcycle sector to be more vigilant.
The Injang landslide incident came under review during the administrative and security coordination meeting, wherein the governor cautioned the population against using the stretch still considered risky.
Anybody passing there on foot is putting his life in danger. So we're asking people to keep off the area until some works are done. The hill in question, government requires to blast that hill and remove the debris before government can reflect on any other thing. And for now, people should use the feeder roads that have been made available.
The administration and security forces have also specified that price control operations will be carried out to make sure that stipulated prices of goods are respected by traders during the end of year feast. Eric Langmia Wufo, CRTV News, Banjul.
A call to urgent action against gender-based violence has been issued by the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abinandoua. The minister made the call today during the launch of the 16 Days of Activism campaign to end violence against women and girls in Yaoundé. Meanwhile, more than 200 cases of gender-based violence have been reported this year in the littoral region, with physical violence topping the list. This was revealed by officials of the littoral region, regional delegate for women's empowerment and the family, as the international community marks a pause to observe this year's edition of the Day for the Elimination of Violence Against Women. Madon Kwele Bezatie presents the situation in the littoral region in this report.
Gender-based violence in Cameroon, like other countries worldwide, has immediate effects on the victim, especially women regarded as most vulnerable. Reports say there are 1 in 3 women experiencing physical, sexual, or other forms of violence from the intimate partner, with more than 200 cases reported in the littoral in 2024 only. Winnie Changa is staff at the Littoral Regional Delegation of Women's Empowerment and the Family.
We are already at 214 cases that are known, because there are some cases which are not known. Physical violence, economical violence, psychological violence, sexual abuses, can name just these few.
Officials of the delegation have put in place several measures to curb this phenomenon in society.
We encourage women to be self-employed because you are responsible of yourself. For no good sake, they should admit a man to treat them a certain way. So when things are going in an unfavorable manner, they should come and complain. We are always there to listen to them.
Officials ascertain that failure to take action against gender-based violence represents a failure by humanitarian actors to meet their most basic responsibilities for promoting and protecting the rights of affected persons. Madon Kwele Bezatie, CRTV News, Douala.
Focus of the day will examine the role played by non-governmental organizations in the fight against gender-based violence. At 5:46, you're listening to the 5 to 6 p.m. on the national station of the CRTV. And Larissa, the 2024 Land Tenure Week has been launched in Yaoundé.
Toute une semaine pour approfondir la réflexion sur la gouvernance foncière et les objectifs de développement durable au Cameroun. La semaine du foncier, c'est son nom, est sur les rails après le lancement officiel par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Yebea, ici, il y a tout juste quelques instants, à l'hôtel Montfébé d'Yaoundé. Toussaint Bam Anya nous présente le contexte et l'intérêt de cette mobilisation.
La semaine du foncier se veut une plateforme d'expression qui apporte une information juste aux populations quant aux innovations observées dans la gestion des terres. La terre, présentée comme ressource naturelle par excellence, est matière première centrale pour les projets de développement. Les questions foncières sont ainsi au cœur des priorités dans les politiques de développement, d'où le thème retenu cette année, à savoir la gouvernance foncière et les objectifs de développement durable au Cameroun, enjeux et perspectives. L'objectif principal ici est d'optimiser la contribution de la terre au soutien de la croissance économique nationale. Plus précisément, il s'agit de faciliter les investissements agricoles et industriels et alléger les coûts et les procédures liées à la disponibilité de la terre en vue d'améliorer le climat des affaires et les transactions immobilières. Au-delà de cette cérémonie d'ouverture, la semaine du foncier sera meublée par des exposés et tables rondes autour des thèmes tels l'état général de mise en œuvre des objectifs de développement durable au Cameroun, l'harmonisation de la législation sur les terres et les ressources naturelles, le foncier et le développement urbain ou encore la prise en compte des outils d'aménagement du territoire dans le foncier. En direct de l'hôtel Montfébé à Yaoundé, Toussaint Bam Anya, CRTV.
Cacao, la réflexion se poursuit pour l'élaboration d'un référentiel de systèmes agroforestiers complexes. Représentants de la filière et partenaires se retrouvent demain à Yaoundé pour échanger sur la question. C'est dans la continuité d'une précédente assise similaire tenue en janvier 2024. Le référentiel en gestation vise à favoriser une production et une commercialisation exponentielle du cacao camerounais durable en adéquation avec le règlement de l'Union européenne contre la déforestation et la dégradation forestière. Les travaux vont être regroupés autour du Conseil interprofessionnel et du CIRAT, la GIZ, le Joint Research Center, la FAO Investment Center et l'Institut européen des forêts.
Discussions geared towards developing a complex cocoa-based agroforestry system in Cameroon will take place in a two-day workshop that opens tomorrow, Tuesday, November 26, in Yaoundé. Representatives of cocoa sector stakeholders in Cameroon are to take part in the workshop, which seeks to continue lobbying the European Union for the recognition of the complex agroforestry systems. In addition to that, incorporating it into the national guide currently being drawn up on the production and marketing of sustainable Cameroonian cocoa.
À 17h50, l'heure de la page magazine du 17-18. Situation hautement préoccupante et plus répandue qu'on ne l'imagine que celle des violences perpétrées à l'égard des femmes et des filles. L'on en recense dans les ménages, dans les rues, au travail, en milieu universitaire, hospitalier, carcéral, professionnel, dans les zones en crise et bien d'autres. Aux côtés du gouvernement qui s'attelle à inverser la courbe du phénomène, il faut également souligner l'agir des organisations non gouvernementales actives dans l'encadrement et la réinsertion des victimes. Notre focus du jour, ce lundi.
Hello Maureen. Hi Larissa. Thanks for having me.
Activism against gender-based violence in Cameroon has been launched today in Yaoundé on the theme Responding and Building After Abuse. The campaign is spearheaded by the Ministry of Women's Empowerment and the Family with the aim of mobilizing stakeholders to evaluate their commitment to ending gender-based violence. This is in line with the International Day for the Elimination of Violence Against Women that is being observed today and will run till December 10, which is Human Rights Day. Focus of the day will examine the engagement of the government and different stakeholders in the fight against gender-based violence, and we will be discussing with Manka Ambe. Hello, Manka.
Hello, Maureen. Hi, Larissa. Thanks for having me.
How engaged are NGOs in the fight against gender-based violence in Cameroon?
Maureen, the fight against violence perpetrated on women and girls is of great concern nowadays within human rights circles because acts of violence continue to be the most common widespread human rights violation, with millions of victims who have learned to speak out and others who die in silence. Now, on a daily basis, these victims are subjected to more insidious forms of brutality that affect them, regardless of their age, economic status, level of education, or social background. And trust me, Maureen, these are detrimental to their physical integrity and mental health.
Let's talk about the percentage of feminism or femicide in Cameroon.
Figures from various associations, non-governmental organizations, and institutional sources indicate that close to 60 cases of femicide have been registered in the year 2024 alone. According to the National Institute of Statistics, in 2018, 39% of women were subjected to physical violence, with 15.7% of them being pregnant women. 11% of women got married at a very tender age and are subjected to sexual abuse, emotional and psychological torture. And worse still is that some of them die in the course of all this psychological and physical trauma. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women calls for the implementation of some measures like financial compensation, legal, social, and health services, as well as sexual, reproductive, and mental health services to repair sexual abuse and gender-based violence.
What are some of the innovations of the 2024 campaign against gender-based violence, Manka?
Maureen, there is the urgent need to intensify the sensitization campaign to combat acts of injustice suffered by women and girls in the world, and particularly in Cameroon, and we should build a commitment for change of behavioral patterns. Now, the United Nations Secretary General Antonio Guterres is also calling for a global action to raise awareness, galvanize advocacy efforts, and share knowledge and innovations to end violence against women and girls through the Global Unite campaign launched in 2018. And as gender activists, we also stand to say, no matter what, a woman's life should not be at stake because of her gender.
Manka Ambe, thank you very much for coming on the 5 to 6 p.m.
Thanks for having me, Maureen.
La croisade contre les violences basées sur le genre est une affaire de tous, selon la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Professeur Marie-Thérèse Abénandois estime que la sensibilisation de la société camerounaise permettrait d'éradiquer un phénomène qui, en 2024, a déjà fait une soixantaine de victimes parmi les femmes. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est l'invitée du 17-18, entretien mené par Sardi Lawan.
Professeur Marie-Thérèse Abénandois, bon après-midi.
Merci beaucoup, Monsieur Sardi Lawan.
Madame la ministre, pour cette seule année 2024, les statistiques parlent d'au moins 60 cas de féminicide. Est-ce que ce n'est pas là l'illustration que le phénomène est grandissant et inquiétant, pour dire le moins, au Cameroun?
Les statistiques nous inquiètent. Pour actualiser un peu, j'ai insisté qu'on me fasse quand même une mise à jour. On a ajouté 6 cas. Donc nous ne sommes plus à 60, nous sommes à 66. Et peut-être que depuis ce matin, d'autres se sont ajoutés. Le phénomène est réel. Ce qui est important, c'est que nous prenions tous conscience de l'existence de cette situation et qu'on apprenne à dénoncer, qu'on brise le silence. Et si vous parlez d'un phénomène grandissant, c'est parce que les langues commencent à se délier. Parce qu'avant, on n'osait pas en parler. Donc de plus en plus, on en parle et nous avons des statistiques. Mais nous souhaitons que la dénonciation continue, la dénonciation par les voisins, la dénonciation par tous ceux qui assistent à ce phénomène odieux. Pouvez-vous imaginer que celle qui est amenée à porter la vie, à donner la vie, soit éliminée et assez souvent de manière violente et inhumaine? Les responsables de ces féminicides, c'est souvent l'entourage. Et curieusement, il peut s'agir d'un partenaire, quelqu'un de très proche, qui exerce ces actes de violence. Et face à cette situation, le gouvernement s'est engagé à prendre le taureau par les cornes en essayant d'améliorer le cadre normatif. Et c'est ainsi qu'un avant-projet de loi spécifique sur les violences faites aux femmes et aux filles a été entrepris. Et son processus de finalisation est en cours. Et je ne suis pas sûr qu'on pourra le mettre sur la table des parlementaires cette session. Nous espérons que lors de la prochaine session, la finalisation aura été faite. Parce que vous savez, lorsqu'il n'y a pas de loi, les gens pensent que tout est permis.
Madame la ministre, certains activistes pensent que la loi n'est pas suffisamment ferme avec les auteurs de ces actes et donc elle ne protège pas suffisamment les jeunes femmes et les filles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que lorsqu'il n'y a pas de loi, les gens pensent que tout est permis. Donc maintenant que ce projet de loi est déjà en cours de finalisation, nous pensons que les gens vont avoir un sursaut. Mais je pense que les uns et les autres doivent apprendre à respecter la vie de tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on doit être abusé jusqu'à ce point, c'est-à-dire à être victime d'un retrait de sa vie de manière brutale. Donc cette loi servira pour dissuader ceux qui pensent que rien n'est fait, mais je dois quand même dire que notre juridiction prévoit quand même des sanctions à l'encontre de ce genre d'actes. Mais une loi spécifique sur les violences faites aux femmes et aux filles est absolument importante, nécessaire.
Le thème de cette année 2024, 2024, c'est riposter et reconstruire après les violences. C'est une façon de présenter la vision des pouvoirs publics dans la quête de solutions.
Vous savez, une femme qui est victime de violences, elle est diminuée physiquement, elle est diminuée psychologiquement, elle est même marginalisée. Donc il y a un processus de reconstruction qui se fait. Donc les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures. Par exemple, cette femme qui est victime de violences, dans son domicile, ce qu'elle pensait être son propre domicile, par la personne qui est son âme sœur. Lorsque ces violences arrivent, il est parfois nécessaire de l'éloigner un peu. Et l'une des mesures prises par le gouvernement, c'est de créer des centres d'accueil pour ces femmes en détresse. Mais nous ne voulons pas dissoudre une famille, mais nous éloignons pour que la colère diminue et que la personne revienne en elle-même. C'est pour ça que ces centres d'accueil pour femmes en détresse existent dans certains de nos centres de promotion de la femme et de la famille. Au vu du nombre toujours important des victimes de violences de toutes sortes, nous avons besoin de plus de ces structures. Donc ça, c'est pour lever l'urgence. Il faut permettre à cette femme de savoir qu'elle est utile à la société. Parce qu'assez souvent, ces violences, il y a un fond de dépendance. Cette femme qui demande tout. Et de temps en temps, on a des couples où tous les deux travaillent et par masochisme, le monsieur va dire c'est moi qui commande ici et commence à taper sur sa femme. Mais souvent, il y a en dessous la pauvreté. C'est pour ça qu'il est important d'autonomiser ces femmes victimes de violences pour qu'elles se sentent aussi utiles dans leur foyer, qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, qu'elles puissent aussi intervenir dans la résolution de certains problèmes qui se posent au sein de la famille. Et nous travaillons avec plusieurs partenaires, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, parce que la violence se retrouve partout. Et toutes ces personnes ont un rôle à jouer. On éloigne un peu la personne et puis on lui apporte une assistance psychologique, psychosociale, et cela va lui permettre de se reconstruire et d'avoir une meilleure santé physique et morale et de se sentir utile au sein de sa famille et au sein de sa communauté.
Merci, Madame la Ministre.
Merci beaucoup, M. Sadi Lawane. Et faites large écho de ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'on puisse voir un changement aux prochaines éditions.
Quelques faits d'actualité en sport. Au pas de course avec Samuel Billon. Bon après-midi, Samuel.
Bon après-midi, Larissa. Bon après-midi à tous.
26e Cannes féminine de handball. Tout d'abord, la compétition débute dans deux jours. L'équipe nationale est à Kinshasa.
Oui, en fait, une première partie de la délégation. Quelques joueuses sont encore au pays, non satisfaites des conditions définies pour cette Cannes en termes de manque à gagner, notamment pour les joueuses professionnelles. La Fédération canoise de handball intensifie la médiation sur les quatre joueurs professionnels restés au pays. Au moins une rejoint le groupe cette nuit. C'est une information du président de la Fédération canoise de handball. Le gros de l'effectif a donc posé ses valises à Kinshasa. Le Cameroun est dans le groupe B, considéré comme le groupe de la mort, avec l'Angola, la Tunisie, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. L'entraîneur national Serge Magala analyse d'ailleurs les forces en présence dans cette poule.
Nous avons l'Angola qui est un mastodonte sur le plan africain et déjà sur le plan mondial qui a signé de très bons scores. La RDC qui joue à domicile, qui n'est pas une petite équipe, qui a toujours fait partie du quatuor africain et ils ont été vice-champions en 2014. C'était en Algérie. La Tunisie qui a eu à remporter le trophée une fois en 2014, c'était face à la RDC. L'Ouganda fait partie des jeunes nations qui sont en train de monter. Vraiment talentueux, nous avons affronté l'Ouganda aux Jeux africains à Accra. La Guinée a un jeu aussi très dynamique et puis c'est un peu difficile de les jouer en début de tournoi parce qu'ils viennent avec toute leur fougue. Aucun adversaire dans notre poule n'est à prendre avec le dos de la cuillère. Le Cameroun, avec son palmarès de vice-champion d'Afrique depuis 2022 à Yaoundé, notre palmarès parle pour nous aussi. Et nous venons à cette compétition avec nos ambitions.
And Colombe Sportif of Ja and Lobo have won the Cup of Cameroon tournament after beating Victoria 2-1 in the Super Cup final at the Mbappe Lepe Stadium in Douala. It is the first time for the Ja and Lobo team to grab two trophies in one season. Harrison Ashotiku now presents the club from the South region in the following report.
Created in 1953, Colombe Sportif of Ja and Lobo gained promotion to the Elite One Championship in 1986 and were relegated to the Elite Two and subsequently the Regional League in 1993. The club from the South bounced back to the country's top flight football in 2016 and have since then been chasing the title and Cup of Cameroon trophy. The 2024 Cup of Cameroon and Super Cup winner qualified for the playoffs when they rounded up the season in the fourth position with two wins, two defeats and a draw. Motivated to finish the season with a trophy under head coach Richard Towa, Colombe approached the Cup of Cameroon with a different mindset, winning all their matches, including the 1-0 victory over Aigle of Chang in the final of the Cup of Cameroon at the Ahmadou Ahidjo Stadium, their first ever trophy. Captain Randy Kwala and his teammates, while touring the South region with the Cup, expressed their determination to increase the number of trophies when they take on Victoria United of Limbe in the Super Cup final. They kept their promise at the Mbappelepe Stadium over the weekend with a 2-1 win over Victoria United, thanks to goals from Zachary Atoyen and Victoire Hanzogo.
Dixia de 2024, en une brève, Samuel, la 8e édition des Jeux nationaux du Cameroun est prévue du 11 au 22 décembre à Yaoundé.
Objectif, s'offrir le maximum de médailles. Les Dixia sont de retour à Yaoundé où tout avait commencé en 2008. Pour ce rendez-vous sportif, sans doute le plus compétitif, la jeunesse camerounaise, les Dixiades. C'est 10 jours de compétition, 10 disciplines sportives, 10 régions, esprit de saine émulation et de raffermissement de l'unité nationale.
Et voilà qui referme le package des sports. Merci Samuel.
Merci, au revoir.
And that's the end of the 5 to 6 p.m. presented by Maureen Wanzi Wilai and Larissa Engana under the supervision of the editor-in-chief, Natalie Mvogo. Thanks for listening and do stay tuned to programs on the CRTV.